Bonjour, c'est Anne-Elisabeth et vous écoutez C'est à vous, un podcast de France Télévisions. Bonne émission. Bienvenue dans C'est à vous en direct jusqu'à 20h50 avec toute l'équipe réunie autour de moi. Bonsoir à tous les cinq.
Bonsoir.
Dans un instant sur ce plateau, l'ancien président de la République Nicolas Sarkozy qui signe Promenade, un ouvrage dans lequel il dévoile pour la première fois sa passion pour l'art, qui est une source d'émotion mais aussi une réponse politique aux crises actuelles. C'est donc de l'art et des artistes préférés de Nicolas Sarkozy dont nous parlerons dans un instant. Émilie.
Beaucoup d'art mais jamais de cinéma ni de musique, enfin sauf... Si quand même l'amour pour une chanteuse.
Une chanteuse Carla Bruni. Pierre.
Eh bien, je vous parlerai de l'année particulière qui a permis à Nicolas Sarkozy de lire et relire Louis-Ferdinand Céline.
Un livre politique, plus qu'il n'y paraît, Promenade, et on parlera de politique également à Nicolas Sarkozy, Patrick.
Zemmour affole la droite et impose ses thèmes.
Mohamed.
Quand la réalité de Marseille rattrape la fiction de Bac Nord.
Et Mathieu dans le 5 sur 5.
Dans le 5 sur 5, les 330 000 victimes d'abus sexuels au sein de l'Église. On va explorer le rapport Sauvé, il était très attendu. Explorer les solutions aussi.
Voilà pour les grandes thèmes que nous soumettrons à Nicolas Sarkozy avant de recevoir Dominique Farrugia et Zabou à la table de C'est à vous autour du dîner conscience, moment même en cuisine par Brandon Pernollet, chef du restaurant Sur les Prés à Megève. Un plat de saison, une bonne fondue, n'est-ce pas Brandon?
Bonsoir, non, ce soir c'est une croûte, c'est une tartine de montagne. Mais ce n'est pas grave. Alors, je vais vous préparer dans le cadre de Tokissime, l'événement autour de la gastronomie de montagne à Megève, une tartine à la noix de jambon, au comté et au Beaufort, accompagnée d'une salade d'herbes de montagne.
Merci beaucoup, Brandon, la seule fondue qu'il y a sur ce plateau. C'est donc moi. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Ces deux livres précédents, Passion et Le Temps des Tempêtes, ont été de très grands succès. Nicolas Sarkozy revient en librairie avec Promenade aux éditions Herschère. Surprise, il ne s'agit pas de la suite de ses mémoires, mais de sa passion pour l'art, la culture, les artistes, qu'il évoque pour la première fois, un livre qui est aussi l'occasion pour l'ex-président d'aller à la rencontre des Français et de ses fidèles.
Vous vaincrez, monsieur le président.
Nicolas.
Bonjour.
On fait signer un paquet de livres.
J'aurais voulu en faire signer plus, mais il y a beaucoup de monde qui attend. Et
le moment qui est...
Merci.
Avec un livre, on n'est jamais seul, on n'est jamais inconsolable. Monsieur le Président, il n'y a que vous pour dire ça.
C'est important de soutenir l'ancien président.
J'ai 24 ans, mais ça fait au moins 10 ans que je vous suis.
C'était prévu de venir, mais encore plus aujourd'hui.
Merci. Le président vous est tout en soutien.
Continuez de vous battre. Vous n'êtes pas tout seul.
Nicolas Sarkozy est ce soir notre invité. Bonsoir Nicolas Sarkozy.
J'étais assis, vous ne faites pas. C'est l'inverse.
Je me lève pour accueillir tous mes invités.
Regardez, ils ne se lèvent pas.
C'est vrai, quel scandale. Qu'il soit président ou pas,
bonjour.
Promenade, est ce
bonjour.
Qu'on appelle un beau livre. Avec c'est une gentil. Très riche iconographie, c'est le genre de beau livre de ceux que l'on pourrait trouver au pied de certains sapins de Noël. C'est dans 2 mois et demi seulement, c'est un beau cadeau, parce qu'il coûte 29 euros. Mais ça n'arrête pas vos fidèles, on l'a vu. Des files d'attente longues, hein, près de 850 mètres de files d'attente à chacune de vos signatures. Quel que soit le sujet que vous aboriez dans vos livres, ils sont au rendez-vous, ces Français, avec une ferveur qui vous étonne encore, Nicolas Sarkozy?
Oui, moi... Ça m'étonne beaucoup plus qu'on peut l'imaginer. D'abord parce que vous parlez du prix. Je pense que le prix, c'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est de donner tout ce qu'on a. C'est de, quand on fait un livre, bon, moi, j'ai jamais fait de film, bien sûr, c'est de le faire en donnant tout, sans calcul. Et les gens le sentent. Et au fond, l'adéquation, c'est entre ce qu'ils trouvent dans le livre et... Le besoin, il y avait d'évoquer cela. Moi, j'ai fait ça sans calcul. Ça aurait pu être ridicule. Ma légitimité là-dessus, j'ai absolument aucune prétention en la matière. J'ai juste voulu dire, le beau c'est important, le sacré ça compte, la culture c'est pas un divertissement, comprenez-moi, c'est pas un divertissement, ça peut être un divertissement, mais c'est beaucoup plus important que ça, les génies, les artistes, on peut pas vivre sans eux, et j'ai voulu dire, voilà, tout ce qui m'a baigné, comment je me suis construit, et peut-être que des gens qui vont pas dans les musées ou les expositions, peut-être qu'ils auront eu envie de cela. Et franchement, j'imaginais absolument pas avoir cet accueil. Et je trouve, le succès, c'est un miracle. Et je ne m'y suis jamais habitué. D'abord parce que j'ai connu plus d'échecs que de succès, il faut bien le dire. Et je ne me suis jamais blasé sur le succès. Et tant de gens qui attendent pour partager avec vous, je crois qu'il y a peu de choses aussi merveilleuses, au fond.
Pendant très longtemps, vous n'avez pas souhaité parler de votre intérêt pour la culture, de peur de paraître insincère. Parler d'art, ça aurait pu être perçu comme un artifice de communication. C'était par pudeur ou par peur de déplaire ?
Peut-être les deux, si vous voulez. Vous savez, en France, maintenant, ça s'est arrangé. Mais en France, quand vous n'êtes pas de gauche, et franchement, je n'ai jamais été de gauche. Je ne sais pas si je suis de droite, mais je n'ai jamais été de gauche. Même jeune, je n'ai pas envie d'être snob. Et je n'ai pas envie d'être du camp de ceux qui ont la vérité révélée. Bon, et je ne suis pas sectaire. Mais quand vous n'êtes pas de gauche, le procès en inculture est extraordinaire. Il y a eu une polémique sur la princesse de Clèves, sur Madame de Lafayette. Moi, naïvement, vraiment stupidement, je pensais qu'on dirait, tiens, quand même, Sarko, il a lu la princesse de Clèves. Et l'immense bataillon de ceux qui ne l'avaient jamais lu m'ont donné les leçons.
Notamment le Nouvel Observateur qui avait organisé le fameux Sarcoton à l'occasion de votre anniversaire.
C'est mes préférés. Dans la prétention, on ne fait pas mieux.
Il disait que vous souffriez d'une maladie, l'allergie à la littérature. C'est pourquoi nous lançons une grande opération thérapeutique, redonner le goût de la lecture à l'ennemi personnel de Madame de Lafayette et l'hebdomadaire, demander aux Français de vous envoyer des livres. Ça vous a blessé ?
Franchement, je les ai plaints. Parce qu'à ce niveau de bêtise et de prétention, parce que vous voyez, c'est très important. Je voudrais que ceux qui nous regardent le comprennent. On a le droit d'aimer ou de ne pas aimer. L'art, et je dis devant Pierre
Lescure... Il n'y a aucun sacrilège à dire qu'on n'a
pas aimé.
Mais
pas du tout. Mais l'art, c'est l'ouverture. Vous n'êtes pas obligé, dans un musée, de trouver tout beau. Vous n'êtes pas obligé d'aimer tous les films. Vous n'êtes pas... Il y a des artistes que je cite, qui sont des grands artistes, mais qui ne me touchent pas. On a le droit, c'est une liberté. Le jour où l'art devient un snobisme, une pensée unique... Et où personne n'a le droit de dire qu'il aime ou qu'il n'aime pas, c'est dramatique.
Vous avez été victime de snobisme, de ce point de vue-là. Bon. Et c'est la raison pour laquelle vous avez longtemps caché aux Français que vous viviez entouré de manuscrits, que vous avez fait encadrer, accroché au mur de votre domicile.
Exact. Mais peut-être que c'est de ma faute aussi. J'aurais sans doute dû dire. J'en parlais avec Carla qui m'a dit « Mais pourquoi tu n'en as pas parlé ?» etc. Et oui, peut-être que parce que c'est tellement important pour moi que comme toutes les choses importantes, on a plus de mal à en parler.
Jacques Chirac aussi avait caché aux Français, en tout cas était très discret sur justement sa passion.
Oui, mais c'était plus compréhensible chez Jacques Chirac qui était très réservé sur tout son domaine personnel.
Ce qui n'est pas votre cas.
Non, je suis assez authentique, si c'est ce que vous vouliez dire gentiment. Moi, avant d'être président, je me disais, j'avais vu de près M. Mitterrand, puisque j'avais été ministre, à l'époque de la cohabitation, j'avais eu de près Jacques Chirac, que j'ai connu quand j'étais très jeune, et je m'étais dit, le pouvoir doit être vivant. On doit aimer au pouvoir. On doit donner. On n'est pas des personnages en cire. Peut-être que je l'ai trop fait, d'ailleurs. J'ai pas j'ai fait des erreurs comme tout le monde. Mais j'avais cette idée en tête. Jacques Chirac avait mis un cordon vraiment autour de lui, une distance, et vous le savez très bien. Moi, non, je ne suis pas comme ça. Quand j'aime, ça se voit. Quand j'aime pas, ça se voit aussi. Et je peux assez peu mentir parce que ça se voit tellement.
Bon. Vous écrivez qu'encore aujourd'hui, le mystère de l'inspiration sous toutes ses formes, littérature, peinture, chanson, ne cesse de vous impressionner. Pour vous, les artistes sont des élus au cœur de l'humanité. Vous aussi, vous avez été un élu, élu même à la fonction suprême. Qu'est-ce qu'ils ont de plus, ces artistes élus qui ne sont pas
savez,
des politiques ?
Zweig a fait une conférence qui a donné un petit bouquin de 80 pages. La conférence commence, c'est Zweig. Je vais pister l'inspiration comme un enquêteur. D'où ça vient ? Bon. Et vraiment, j'ai lu avec passion, parce que c'est Zweig, une intelligence extraordinaire. Et peut-être que la partie sacrée de l'homme, elle vient de là. Comprenez-moi, quand vous voyez la Pietà...
À Rome.
À Rome, dans Saint-Pierre. Michel-Ange a 23 ans. C'est la partie divine de l'homme. C'est ce qui fait de l'homme, la femme, de l'être humain, l'unicité. Parce que aucune autre espèce du vivant n'a ce rapport théorique. Quel est le seul domaine où le progrès n'existe pas? Vous allez à Lascaux. J'ai visité Lascaux. Lascaux 1. Mais il y a 40 000 ans ou 35 000 ans, il peignait comme on peint maintenant. Quand Mozart fait la marche à 5 ans, 6 ans, on ne peut pas dire qu'on joue mieux aujourd'hui. Parce que l'art est parfait. Et d'où ça vient? Et vraiment, j'envie ces génies.
Vous les enviez?
Mais je les envie. La première fois que j'ai vu un tableau, c'est par une vignette, un timbre. Le joueur de cartes de Cézanne. J'étais tout jeune, tout enfant. Mais comment ils font? J'avais l'impression d'être le troisième à la table. Mais comment ça se passe? D'où ça vient? Et s'il y a, j'espère ne choquer personne, une raison de croire en Dieu, ou dans la cohérence, c'est l'art.
Vous croyez en Dieu?
J'aimerais tellement. 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 Si vous saviez comme ça. En tout cas, je n'ai pas la force de ne pas y croire. Bon, ça veut dire une immensité de doutes, mais l'art, c'est vraiment quelque chose qui est intemporel et universel. Moi, je pense qu'il y a une culture française, voyez-vous, qui a des racines. Mais de cette culture, de cette identité, quelle polémique sur l'identité, on va vers l'universel. C'est pas l'universel qui va aux racines, c'est les racines qui vont à l'universel. Hein? Eugénie Grandet, à Saumur, elle parlait au monde entier, on était au 19e siècle. Elle est tellement française.
Et féministe. Goriot. Et féministe, Eugénie Grandet. On va revenir...
Et quelle amoureuse.
Et quelle amoureuse.
Excusez-moi.
Oui, il est assez décevant.
Oui, bon, mais vous savez, il y aurait beaucoup à dire. Dans Anna Karenine, pour moi, le personnage central, c'est Monsieur Karenine. Quand sa femme, qui est partie avec Vronsky, est malade, il appelle l'amant et tous les deux autour. Bon, Monsieur Bovary, tout le monde pense que c'est un fade. Mais il s'est aimé, Monsieur Bovary. Hein? Quand sa femme meurt et que son ancien amant arrive, « Oh, ma femme aurait été si heureuse de vous voir !» Dans la Chartreuse de Parme, Mosca, Premier ministre de la République de Parme, il démissionne, c'est autre chose que Fabrice. Donc, il y a dans le roman, moi j'ai
vous.
Un amoureux du roman, et je trouve que les gens qui sont capables d'aimer sans condition, totalement, jusque d'ailleurs une certaine forme d'humiliation, c'est les vrais généreux. C'est ça l'humanité.
Vous avez été capable d'aimer jusqu'à en être humilié, Nicolas Sarkozy?
Moi, je suis assez rarement humilié, mais oui, pour moi, c'est très important. Pas important, très important, voire fondamental. Et j'ai notamment voulu que, y compris avec le pouvoir, cette capacité d'aimer. J'ai rencontré Carla le 13 novembre 2007, j'étais président de la République. Cette capacité d'aimer complètement, totalement, et c'est très important en France. Contrairement à ce qu'on croit, les Français aiment l'amour. Un jour, M. Mitterrand, à la fin d'un conseil des ministres, m'a dit « Qu'est-ce que vous pensez du journal ?» C'était un journal qui avait publié une photo de sa fille. Je lui ai dit « Vous savez, moi je ne connaissais pas très bien M. Mitterrand. Vous savez, les Français vont penser que c'est un père qui est tellement fier de sa fille. Et la sincérité des sentiments en France, ça passe toujours.
Les artistes sont des élus au cœur de l'humanité. On va parler d'autres élus, futurs élus, en tout cas candidats à une autre élection qui va occuper la France ces prochains mois avec l'élection présidentielle. Et en la matière, Patrick, c'est un non-candidat qui occupe la scène médiatique, le phénomène Zemmour et son impact sur ce début de campagne.
Phénomène, oui, c'est incontestable. Pas seulement à cause de ces sondages à deux chiffres qui font entrer ce pas encore candidat dans le petit cercle des qualifiables pour le second tour, mais aussi au vu de ces foules curieuses ou conquises que draine le polémiste. 3700 entrées payantes hier soir au Palais des Congrès de Paris pour un débat avec Michel Onfray et pour applaudir ceci.
Je souscris à la nécessité de faire un grand nettoyage. C'est pas possible que ça continue comme ça. Les gens vivent dans une insécurité qui n'est pas... il n'est pas un horizon de civilisation.
Le grand nettoyage, demande Onfray, acclamé par les supporters de Zemmour. Il y a donc un emballement inédit à 6 mois d'une élection dont personne ne peut dire s'il s'agit d'une bulle ou d'une vague. Les scrutins présidentiels ont déjà connu d'éphémères troisième homme qui surgissait aux premières feuilles mortes et s'effondrait au premier bourgeon. La nouveauté, la vraie nouveauté, c'est la surmédiatisation du phénomène. Les chaînes Tout Info ou Tout Opinion sont devenues certains jours des chaînes Tout Zemmour, avec le nom du polémiste en bandeau permanent du matin au soir. Aucun candidat, je crois, dans aucun scrutin précédemment, n'a jamais bénéficié d'une telle exposition gratuite. Aucun, sauf Donald Trump, qui avait antenne ouverte, notamment sur CNN, dans les mois qui ont précédé son élection de 2016. Dans un effet boule de neige bien connu, la médiatisation donne le crédit, le statut et la visibilité qui font gonfler les sondages, lesquels alimentent encore la médiatisation. On n'en a pas fini.
Éric Zemmour qui impose ses thèmes à la droite.
Oui, à toute la droite. Hier soir, il a précisé la façon dont il voudrait se débarrasser, dit-il, des contraintes de la Constitution et de l'État de droit pour faire appliquer ces mesures anti-immigration.
Pour les mesures que je propose, qui seront en contradiction avec la jurisprudence du Conseil constitutionnel et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, et il n'y a qu'un référendum pour briser cette opposition-là.
Alors, un référendum, ça ne vous rappelle rien? Voici.
Présidente de la République, je présenterai aux Français un référendum où la question sera simple. Approuvez-vous le projet de loi C2I, projet de loi citoyenneté, identité, immigration, qui comprendra un plan complet de maîtrise de l'immigration.
Mais la droite LR n'est pas en reste. Que propose Xavier Bertrand ?
Un référendum dès l'automne pour reprendre en main notre politique migratoire.
Et Michel Barnier, lui aussi, a décidé d'enfoncer le même clou.
Ce référendum a deux objectifs. Un, de donner au Parlement la possibilité chaque année de se prononcer sur les quotas d'immigrés économiques. Deux, de créer ce bouclier constitutionnel pendant le temps du moratoire pour nous permettre de mettre à plat toutes nos procédures.
Alors, précisons que ces référendums ne sont pas de même nature que ceux proposés par Marine Le Pen et Éric Zemmour. N'ont pas de chance d'aboutir faute de majorité dans les deux chambres pour que ce texte puisse être soumis aux citoyens français. Mais voilà, la conclusion, c'est que Zemmour a imposé une surenchère troublante sur un thème, l'immigration, dont toutes les enquêtes des mêmes instituts nous disent pourtant qu'il ne fait pas partie, ce thème, des premières préoccupations des Français.
Votre analyse, votre réaction à ce phénomène médiatique et politique,
il y aurait tellement de choses à dire. Essayons de nous concentrer sur... Bon. D'abord, je veux être désagréable avec personne, mais pour moi, à chaque campagne, quand il y a quelqu'un qui vient troubler, c'est parce qu'il n'y a pas de débat sur la table.
Pardon. C'est le vide qui...
Mais, excuse-moi, un petit peu. Bon. J'ai eu la chance, le privilège, de 2002 à 2012, de faire tous les 20 heures le soir... tous les 13 heures à midi, et même tous les matins. Bon. Dieu sait qu'on m'a attaqué, Dieu sait qu'on m'a critiqué, mais au moins, j'avais même théorisé, je voulais blaster, en mettant sur la table la discrimination positive, l'identité, le musée de l'histoire de France, l'autonomie des universités. Bon. À partir du moment où une espèce de pensée unique, médiane, moyenne, sert de base à tout le monde, il ne faut pas s'étonner que certains prennent la place. Zemmour n'est pas la cause, il est le symptôme.
Oui. C'est-à-dire ça, qu'on n'a pas débattu ni réfléchi sur l'identité française.
Ça veut dire qu'il faut transgresser pour se faire entendre ?
Non. Alors, je connais la transgression. D'abord, il n'y a pas d'éducation sans transgression.
Enfin, là, on parle de transgression constitutionnelle.
Des propositions de M. Zemmour. Je parle des idées. Qu'est-ce que c'est que l'éducation ? Pourquoi il faut des règles ? Pourquoi en 68, ils sont complètement trompés ? Il est interdit d'interdire. S'il n'y a pas de règles, il n'y a pas de transgression possible. Donc, la transgression en soi n'est pas une mauvaise chose. Bon, j'étais tellement accusé moi-même de transgresser. Mais si transgresser, c'est dire ce que vous pensez, à ce moment-là, c'est inacceptable. La question de l'immigration. Pendant des années, un journal a même écrit... en mettant à la une, le voyou de la République. Parce que j'avais dit, la question des Roms se pose, c'est un vrai sujet. Mais je vais vous dire une chose, la crise migratoire n'a pas commencé. elle est à venir. Donc si on n'en parle pas, on n'a aucune chance de trouver une solution. Et on a le droit d'en parler sans être un raciste, sans être un extrémiste, sans être quelqu'un qui transgresse.
Donc vous trouvez légitime que ce thème s'impose aujourd'hui dans ce secteur ? Non,
moi je pense que quand on élu un président de la République ou une majorité, c'est pour qu'il fasse le boulot. Donc il n'y a pas besoin non plus systématiquement de se tourner vers le référendum pour demander aux Français de faire à votre place votre boulot. Si vous avez été élu, c'est pour faire ça. Bon,
Sauf si vous voulez modifier la Constitution.
Non, excusez-moi, j'ai modifié la Constitution. La dernière réforme de la Constitution, c'est 2008.
Mais pas
avec,
par référendum.
Avec les parlementaires. Pourquoi ? Parce que je pense qu'on ne pose pas une question à 70 000 entrées par oui ou par non. Voulez-vous supprimer le service national ? C'est une question de référendum. Il aurait dû faire un référendum. Bon. En l'occurrence, je ne pense pas que sur la complexité du sujet migratoire, où il y a la question des réfugiés politiques, où il y a la question des gens qu'on accueille pour l'économie. Mais il y a une chose qui est sûre, l'Afrique a 1,2 milliard d'habitants, dans 30 ans elle aura 2,5 milliards d'habitants, et il y a 14 kilomètres au détroit de Gibraltar. Donc le sort de l'Europe et le sort de l'Afrique sont liés, c'est un sujet immense.
Mais pas un sujet de référendum donc.
Je ne veux pas rentrer dans le débat, dans le débat politique. Quand des gens disent, il faut que Zemmour, c'est scandaleux qu'il parle. Oh, je suis pour que tout le monde parle. Je suis voltairien, de toute façon. J'ai pas vos idées.
Donc il a raison de poser ces questions-là.
Exactement, j'ai pas vos idées, mon vieux. Mais je me battrai pour puissiez les défendre. Il y a quelque chose d'insupportable dans ce présupposé. Ensuite, les projets, j'entends les propositions des uns et des autres. Elles me paraissent vraiment, il y a des choses intéressantes. C'est assez facile de faire un projet parce qu'on sait ce qu'il faut faire. Le plus difficile, c'est de trouver la mélodie. C'est pas d'écrire les couplets de la chanson. Les couplets, c'est très compliqué. Mais la mélodie et le refrain, je veux dire la vision. Est-ce que vous comprenez ? Moi, je me suis battu sur le travail. À un moment où tout le monde trouvait qu'il fallait faire la réduction du temps de travail. Je disais, vous êtes complètement fous. Un homme, pour vivre, il a besoin d'aimer et de travailler. De travailler et d'aimer. Si pour vous, le bonheur, c'est de travailler 28 heures par semaine, c'est que vous n'avez pas compris qu'il faut... Les choses. Aujourd'hui, je pense qu'un des problèmes français, c'est notre rapport à l'égalité. Et notre rapport, quand on a la différence, l'égalité est un mensonge. L'égalité n'existe pas. C'est un mensonge. Il y a des grands, des petits, des gros, des chauves, des très énergiques, et d'autres qui n'ont pas d'énergie. Moi, je crois à la richesse de la différence. Je ne crois pas au nivellement. Et je pense d'ailleurs que dans un pays comme le nôtre, il faut libérer les différences. Et permettre à chacun, y compris dans ses enfants, plusieurs enfants, avec la même éducation, le même sang, ils ont des aspirations différentes. J'aime la différence. Et je ne crois pas à l'égalité. J'aime ce qui est juste, donc je n'aime pas ce qui est égalitaire.
Est-ce que vous pensez, oui ou non, que l'immigration est la première question, le premier problème qui se pose au pays
Je ne sais pas
dans
si
cette
c'est
pré-campagne
le premier.
Présidentielle.
En fait, le premier problème qui se pose au pays, c'est qu'on ne veut pas que la France disparaisse. On ne veut pas que nos valeurs, que notre mode de vie, que notre identité, que notre histoire, on est sommé de détester notre histoire, de déboulonner nos statues et de faire comme avec les Bouddhas de Bandian, là, où, qui veulent tout raser. Les gens, on aime la France. Alors, la question migratoire, ce n'est pas elle qui fera disparaître la France, mais c'est un sujet quand même. Est-ce qu'on a le droit d'avoir une culture ? Est-ce que nos valeurs vont au-delà de la laïcité ? La laïcité est une valeur importante, mais ce n'est pas la seule. Et on ne veut pas disparaître. Or, il y a un rapport démographique dans le monde sur 7,5 milliards d'habitants. Il y en a 4 en Asie. Et ce qu'on appelait l'Occident, même allez, l'Europe simplement, c'est moins de 500. C'est la démographie qui fait l'histoire. Donc les gens ne veulent pas mourir. Notre culture ne veut pas disparaître.
Et pour ça, il faut la transmettre.
Pour cela, il faut la tromper.
Et ça doit être un facteur d'intégration. C'est-à-dire que la culture française doit prévaloir dans l'esprit de ceux qui choisissent de vivre en France.
Il y a une culture française. Le petit gosse qui vient de Kaï étant une région du Mali, hein, il y en a beaucoup qui viennent de là. Si vous lui dites simplement, mon petit, tu viens dans ce pays qui va devenir le tien, tu dois être laïque. La sécu est gratuite et tu as une place en HLM. Et l'école est gratuite. Mais ça ne suffit pas. La vie, ce n'est pas que le matériel. Moi, je dis, il faut le prendre par la main, il faut l'emmener devant la Joconde, ou même faire un voyage d'une classe verte, une classe à l'extérieur, en Italie, et lui dire devant la Pietà, mon petit, en devenant français, tu deviens l'héritier de cette culture.
Et lui donner un prénom du calendrier aussi.
Non, moi je ne suis pas. Non, mais pas je suis, oui.
Non, mais c'est ce que propose Éric Zemmour.
D'accord. Enfin, moi, pour moi, ce n'est pas l'alpha et l'oméga. Il y a une chose qu'il m'a dit, qu'il a dit et que je ne peux pas accepter, c'est le commentaire sur la famille Sanders.
Parce que moi, j'ai choisi d'enterrer les victimes de l'attentat de Mohamed Merah.
Quand on perd dans la même journée un enfant et son mari, je n'accepte pas une remarque sur le lieu où cette famille éplorée a choisi d'enterrer ses morts. Et je les connais, oserais-je dire, je les aime. J'ai vu leur souffrance inhumaine. Et je n'accepte pas qu'on... Pour moi, c'est une ligne rouge, ça. Mais parce que la ligne rouge, c'est la capacité à aimer quelqu'un et à le respecter, même si on n'est pas d'accord avec lui. Après, pour ce qu'il veut sur Vichy, sur ceci, ça fait partie du débat. Mais là, c'est une ligne rouge. On ne dit pas à une mère qui a vu sa fille attrapée par la queue de cheval et qu'un cinglé lui a tiré dans la tête, vous n'auriez pas dû l'enterrer en Israël.
Nicolas voilà, ça, Sarkozy, j'aime pas ça. Adopter la culture française que vous défendez, l'identité française, est-ce que ça veut dire oublier la culture de ses origines, de ses
c'est
traditions ?
C'est d'abord connaître notre culture.
Mais elle doit prévaloir sur une culture antécédente.
Mais bien sûr, parce que, excusez-moi, quand vous...
Certains candidats parlent d'assimilation. C'est aussi la notion que vous avez envie de
moi, transmettre. J'en ai parlé, pour moi, s'intégrer. Aussi. Moi, j'en ai parlé aussi. Je n'aime pas le communautarisme. Et quand même, il y a un sujet. Est-ce que la France, est-ce que la République française, c'est une addition de communautés, ou est-ce que c'est un creuset dans lequel chacun porte sa part, mais autour d'un tronc commun qui est l'histoire de France et la culture française, et le mode de vie français, et les paysages français. Bon, assimilation, moi je veux bien tout ce qu'on veut. Sur les 20 dernières années, il y a plusieurs centaines de mosquées qui ont été créées en France. Je ne vois pas beaucoup d'églises qui ont été ouvertes ailleurs. Je veux dire qu'on n'a pas de leçons de ce point de vue à recevoir. Mais la question, est-ce que, quand vous venez dans un pays, vous aimez sa langue ? Vous aimez sa culture, vous aimez son histoire, ce qui ne veut pas dire que notre histoire a toujours été impeccable. Est-ce que vous devez pas? Oui. Sinon, pourquoi vous venez? Ce n'est pas un self-service, une nation. Une nation, ce n'est pas simplement des avantages.
C'est différent, vous disiez que la différence, c'était une culture tout à l'heure. Mais, c'était une richesse.
Mais madame, moi-même, je suis différent. Je suis même l'incarnation de la différence. Donc, il ne faut pas me dire que la République française empêche qui que ce soit d'être différent. J'aime la différence. Je suis différent et j'aime la différence. Mais je veux qu'on aime le pays qu'on choisit. Je veux qu'on aime sa langue, qu'on parle sa langue, qu'on connaisse son histoire et qu'on aille voir les chefs-d'œuvre dont on devient les héritiers. Moi, je ne veux pas qu'on me dise « Gauguin a mis enceinte une gamine de 14 ans lorsqu'il était en Polynésie. On va décrocher les chefs-d'œuvre de Gauguin. » Il se trouve en plus que c'est la période la plus extraordinaire. Parce qu'il s'est mal comporté. Mais madame, si on doit décrocher tous les gens qui sont mal comportés, quelle est la caractéristique d'un homme et d'une femme? C'est de faire des erreurs. Sinon, ce n'est pas un être humain, c'est un robot. Avec une intelligence artificielle, peut-être qu'on y viendra un jour. Ben, je n'en ai pas envie. Voilà. Et je ne veux pas qu'on me dise, quand c'est un anniversaire de la mort de Napoléon, on ne le célèbre pas, ou qu'on va déboulonner Colbert ou De Gaulle. On est chez les fous. Parce que pour ça, il y a Daesh en Syrie, il y a les talibans, ça c'est bien, on fait table rase. 1984.
Orwell,
c'est extraordinaire, c'est un génie ce monsieur. Il a montré comment on installe une dictature par la réécriture de l'histoire. C'est exactement ce à quoi on assiste. Voilà. Et j'ai voulu ce plaidoyer pour le beau. Par exemple le beau, plus personne n'en parle. On a l'impression que le beau est devenu un symbole d'inégalité, que le chef-d'œuvre c'est une injustice. On est à ce point-là, aujourd'hui. C'est pas parce que le beau est subjectif qu'on n'a pas le droit d'en parler. C'est merveilleux. Quand Notre-Dame brûle, il n'y a pas besoin d'être un pratiquant pour avoir le cœur qui saigne. Quand on voit le Mont-Saint-Michel, c'est un des endroits que je préfère en France, on n'a pas besoin d'être un croyant absolu pour s'agenouiller et dire « Dieu que c'est beau ». Eh bien, j'ai voulu... Bon, dire « rien ne vaut que le beau ». Rien n'est vrai que le beau.
Moi, j'ai bien aimé dans Promenade quand vous expliquez comment la culture peut guérir presque des maux de la politique et quand vous racontez qu'en 95, après l'échec de votre champion, Édouard Balladur, vous avez du temps, et le temps en particulier, de lire pour la première fois, tranquillement mais avec passion, Le voyage au bout de la nuit de Ferdinand Céline. C'est la vertu, finalement, des échecs de la politique, de vous laisser du temps. Et vous aviez...
Je l'ai même acheté dans une librairie de Biarritz.
Ah oui.
Et je suis tombé... Ben, vous voyez, je ne suis pas un précoce. Hein, parce qu'en 1995, quand même, j'avais quoi 40 ans. Et je suis tombé, mais par terre, de ce que je découvrais. Hein. Et quand il termine, et qu'on n'en parle plus, là, il a vraiment tort. Parce qu'on ne cesse de parler du voyage.
Mais vous aviez évoqué assez joliment, avec Bernard Tapie, qui présentait à l'époque une émission qui s'appelait Rien à cacher, vous aviez évoqué ces moments avec ou sans de la politique.
Quand j'entends la traversée du César, ça me fait un peu marrer, parce que moi, je vous ai vu plusieurs fois avec d'autres personnes. À l'époque, vous êtes maire de Neuilly, ça marche bien, c'est un désert dans lequel il y a pas mal d'oasis quand même.
Oui, non, mais moi, vous avez noté, je me suis pas plaint.
Un peu.
C'est toute la difficulté de la politique. Il faut se préparer au meilleur, parce que si on n'est pas prêt, on échoue. Mais il faut également se préparer au pire,
parce que si
on n'y arrive pas, il ne faut pas se détruire soi-même.
Et c'est vraiment une des caractéristiques aussi de Bernard Tapie, même après un échec ou après un succès, de vivre chaque minute.
Moi, Bernard Tapie m'a touché, moi. Voilà, d'abord parce qu'il avait beaucoup de talent. Je veux dire une chose, c'est que j'ai beaucoup aimé son couple avec Dominique. Parce que voilà un homme qui a dévoré la vie par tous les bouts. Mais son couple, sa famille, l'amour pour sa femme, lui qui était fort, énergique, sentimental, et sa femme, c'était tout, moi ça me plaît, était gentil. Profondément gentil, humain. Il a beaucoup souffert, mais il a bien vécu. Et vous savez, j'allais parfois lui rendre visite pendant sa maladie. Eh bien, je souhaite avoir la moitié du courage dont il a fait preuve. On peut l'aimer, pas l'aimer, mais devant la maladie, cher Pierre Lescure, cet homme s'est tenu debout. Et c'est pas donné à tout le monde. Je ne l'ai jamais entendu se plaindre. Parfois, c'était même difficile de comprendre ce qu'il disait. Et vous savez, la dignité d'un homme, c'est quand il est le plus faible. Et moi, je pense que là où il était le plus fort, c'est quand il était à ce point affaibli. Et j'ai pensé la même chose pour M. Mitterrand.
Bernard Tapie qui souhaitait vivre pour avoir finalement le verdict, en tout cas la décision finale du tribunal dans le procès qui l'opposait au Crédit Lyonnais notamment, Bernard Tapie qui a eu beaucoup de démêlés avec la justice. Jeudi dernier, la 11e chambre du tribunal correctionnel de Paris vous a condamné à un an de prison ferme pour le financement illégal de la campagne présidentielle de 2012.
Si vous me permettez juste une chose, ce n'est pas pour le financement illégal. Hein.
Oui, non, pardon.
Pour dépassement du plafond légal.
C'est très important.
Ce n'est pas tout à fait la même chose. C'est dans le cadre de l'article sur le financement illégal, mais c'est dépassement. Oui, j'ai dépassé les comptes de campagne, je suis le seul qui l'ai fait, c'est bien sûr. Mais enfin...
Vous avez décidé de faire appel.
Vous l'avez comme ça parce que c'est moins grave, c'est ça, c'est pas grave d'avoir dépassé les comptes de campagne.
Non, ce qui est grave, c'est... Enfin, je pense que ce qui est bien, c'est d'être précis. Voilà. Vous pouvez être condamné pour ce que vous voulez, mais enfin, à t'en faire, quitte à le dire, autant dire ce qui est vrai. Ce qui est vrai, c'est que j'ai été condamné pour dépassement des comptes de campagne, pas pour financement illégal. Mais, qu'est-ce que je veux ? On va pas refaire le procès ici, ce serait ridicule. Qu'est-ce que je veux ? Je veux que le droit s'applique pour moi comme pour les autres. Ni plus, ni moins. Bon, il y a des règles de droit. C'est ennuyeux, mais c'est comme ça.
En quoi est-ce que le droit ne vous a pas été appliqué de la même façon qu'à un autre ?
On ne peut pas être sanctionné deux fois pour les mêmes faits. Exactement les mêmes faits, puisque c'est les mêmes faits. Exactement les mêmes faits.
Une fois, ce n'était pas pénal, c'était une décision du
Conseil constitutionnel. Non, absolument pas. Absolument pas. C'était dépassement du plafond de campagne.
Ce n'était pas sur un plan pénal.
C'est une règle qui est comme ça. C'est comme ça, c'est dans le droit français. Hein ? Deuxièmement, il ne peut pas y avoir de sanction pénale s'il n'y a pas d'intention de détourner. Or, que dit le juge d'instruction ? Nicolas Sarkozy n'était pas au courant, ne l'a pas organisé, ne le savait même pas. Donc si je ne savais pas, c'est difficile de m'en tenir responsable. Pénalement, on peut éventuellement m'en tenir responsable. Civilement, on ne peut pas m'en tenir responsable. Pénalement.
C'est pas exactement ce qui est écrit dans le jugement.
Non, la tribunale la présidente, dans ses attendus, est très claire. Vous avez été prévenu en cours de campagne par deux alertes de votre commissaire aux comptes, prenant acte du dépassement du plafond des dépenses de campagne, mais vous auriez poursuivi sans en modifier la cadence.
On va pas faire...
Non, mais
je vais répondre, On ne va pas faire les choses. Mais il n'y a pas eu deux textes des commissaires aux comptes, il y en a eu trois. Et le troisième, elle l'a oublié, sans doute un oubli. Qu'est-ce qu'il dit, le troisième ? Il n'y a rien à voir, on est dans les clous. Donc, on me reproche de ne pas avoir tenu compte des deux premières alertes, mais la troisième, qui est postérieure, dit « Tout va bien, on a même 2 millions de marge. » Mais peu importe. J'irai jusqu'au bout pour que les règles de droit soient respectées. Vous savez pourquoi ? Parce que, ce qui m'arrive, moi je peux me défendre. Je ne suis pas à plaindre. J'ai une belle vie. Mais au fond, il y a beaucoup de gens à qui ça pourrait arriver. Même vous autour de cette table. Et les règles doivent être les mêmes pour tout le monde.
Vous avez...
Quand vous êtes inconnu, vous ne devez pas être payé plus que les autres. Et quand vous êtes très connu, vous ne devez pas être payé plus que les autres. Et même, je vais vous dire une chose, la question de l'exemplarité, c'est le contraire de l'état de droit. Parce que l'exemplarité, ça veut dire, on va te sanctionner, non pas pour ce que tu as fait, mais pour faire peur aux autres. C'est le contraire de l'état de droit, où chacun doit assumer ses responsabilités. Bon. C'est toujours
en gros, vous payez pour l'exemple, pour qu'à l'avenir, ces dépassements de campagne n'aient plus lieu.
Je ne sais pas pourquoi je paye. En tout cas, ce que je peux dire...
Vous n'avez pas un peu de désinvolture en n'ayant pas assisté à votre procès simplement fait une apparition au début de...
Excusez-moi, il faut être précis là aussi. D'abord, j'ai été mis en garde à vue pendant quasiment 2 jours.
Oui, non, mais là,
attendez, pardon. Ensuite, j'ai été aimablement reçu pendant 12 heures. Et enfin... J'ai fait 6 heures d'audition, avec en plus mon avocat et ami Thierry Herzog, qui a fait un grave malaise à ce moment-là, heureusement en pleine forme aujourd'hui, et j'ai pas demandé qu'on reporte le procès, alors que je me suis expliqué seul. Mais qu'est-ce qu'il dit le code pénal ? Quand vous risquez moins de 1 an, vous n'êtes pas obligé. Donc on peut, vous voulez me reprocher, vous, qui êtes un défenseur des droits de l'homme, d'appliquer ce qui est dans le code.
Bien sûr.
C'est-à-dire que je vais faire le cirque médiatique pendant 3 semaines où les caméras sont branchées sur moi pour répondre de délits qui n'étaient pas ceux qu'on me reprochait.
C'est la procureure qui a parlé de désinvolture à votre égard.
Le procureur s'était même trompé dans l'ordonnance de renvoi. Il me renvoyait pour des faits pour lesquels je n'avais pas été mis en examen. Il a dû revoir sa copie, le pauvre. Donc, il faut être calme, il faut être fort. Mais je vais vous dire une chose. Je n'ai pas baissé la tête pour des délits que je n'ai pas commis. Parce que jusqu'à présent, on a le droit de se défendre. Alors moi, j'ai vu qu'il y avait un procureur qui avait dit pour M. Benalla, tant mieux pour lui, elle a déjà été... condamné par le tribunal populaire, alors il faut être gentil avec lui. Moi, vous savez, je m'appelle Nicolas Sarkozy. Je baisse pas la tête pour quelque chose que j'ai pas commis. Je le dis sans aucune agressivité, mais je le dis. Parce que dans un état de droit, on a le droit de se défendre. Je me défendrai. Et s'il le faut, j'irai dans les juridictions européennes. Parce que dans les juridictions européennes, y a des règles aussi. M. Zemmour, d'ailleurs, a tort. La Cour européenne de justice, des droits de l'homme, ça compte. Et ça compte pas simplement dans les dictatures. Ça compte aussi dans les états de droit qui oublient parfois le droit.
Vous restez avec nous, Nicolas Sarkozy. On continue à évoquer l'actualité.
Surtout que j'ai vu que c'était la gastronomie montagnarde. C'est ce que je préfère.
Oui,
ça fait grossir rien qu'en regardant.
On va pas tout de suite parler cuisine. C'est d'abord la story de Mohamed Bouafsi. Salut Mohamed.
Bonsoir Monsieur le Président.
Bonsoir.
Dans votre story ce soir, les hommes de la BAC Nord de Marseille.
Nicolas Sarkozy, est-ce que vous avez vu comme 2 millions de personnes BAC Nord ?
Non, je n'ai pas vu BAC Nord. Mais je veux absolument aller le voir. Et vous savez pourquoi ? D'abord parce qu'il paraît que c'est un très bon film. Et deuxièmement, parce que j'étais 4 ans ministre de l'Intérieur et j'ai toujours adoré les gens, hommes comme femmes, des BAC, Brigades Anticriminalité. Et ils le savent, c'est toujours été mes favoris. Pourquoi ? parce que c'est des gens passionnés. Alors, il y en a qui ont fait des fautes. En l'occurrence, c'est le sujet du film. Mais les gens des BAC, c'est des gens courageux. C'est des gens que j'aime. C'est des gens qui sont passionnés par leur métier. Et j'ai été fier de les diriger.
Alors, la fiction, c'est ça.
Arrête-toi !
Arrête-toi,
discute !
Individu en fuite !
Tu serais qui, toi ? Tu serais pas ton insigne ? Tu serais quoi ? Tu serais quoi ? Tu serais rien !
Là, on a envie de niquer le réseau, nous. Faut que tu me donnes une vraie info, là.
5 kilos. Trouve-moi 5 kilos, je te trouve une info.
C'est impossible. Cette cam est enregistrée. Fais comment, nous, là ? Arrangez-vous, je sais pas, je veux pas savoir.
Et quand la réalité dépasse la fiction, ça donne 72 heures de violence inouïe pour la BAC Nord de Marseille. Dimanche, deux équipages de la brigade anticriminalité de la cité phocéenne ont été victimes de tirs de Kalachnikov et d'armes de poing dans la cité de la Bricarde. Les fonctionnaires étaient en pleine intervention quand ils ont été la cible d'une fusillade. Vendredi dernier, déjà, les mêmes policiers de la BAC avaient été mis en joue par deux individus. Une situation qui devient intenable à Marseille.
Aujourd'hui, l'état d'esprit... Il est plutôt inquiétant, puisqu'on se dit que systématiquement, quand on va rentrer dans ces cités, des quartiers nord ou ailleurs d'ailleurs, on risque de perdre la vie. Et ça, c'est absolument insupportable à penser. Mais c'est une situation qui est due très clairement à ce sentiment d'impunité qui s'est développé depuis plusieurs années, à cet état d'esprit des gens qui pensent que l'état qu'on a en face de nous est un état faible.
Les policiers qui ont été visés dimanche à Marseille sont indemnes. Un suspect a été arrêté. Et pourtant, en visite à Marseille le 1er septembre, Emmanuel Macron a rappelé qu'aucune zone de non-droit n'existait à Marseille, ce que nuance le syndicat de police Alliance.
Je pense que c'est important de le rappeler. Il n'y a aucun endroit dans Marseille, et en particulier dans les quartiers nord, où la police ne rentre pas. Ça n'existe pas. Il y a des endroits où des situations inacceptables pour les habitants existent. Dès que vous avez le dos tourné, dès que vous repartez.
On rentre parfois à 2, 3, 4 équipages, mais j'ai envie de vous dire à quel prix. On sait qu'à chaque intervention ou à chaque interpellation qu'on va faire dans ces cités, on va se rouler par terre. Alors, c'est un langage policier, mais on sait qu'on va être, on va se battre avec ces individus, ou du moins, on va devoir employer un minimum de violence.
La délinquance, selon la Fondation Jean Jaurès et d'Ipsos, c'est la quatrième préoccupation des Français. Le 14 septembre dernier à Roubaix, le président Macron clôturait le Beauvau de la sécurité avec une expression forte.
La première exigence et ambition, je l'ai parfois d'ailleurs dit en ces termes, je vous le répète, plus de bleu sur le terrain. Ce qu'attendent nos compatriotes, c'est en effet une présence accrue de policiers et de gendarmes sur la voie publique. Parce que c'est rassurant pour eux et dissuasif pour les délinquants.
Du bleu partout, ça ressemble à une de vos expressions, Nicolas Sarkozy, dans les années 2000, à l'occasion de la sortie de votre livre.
Soyez pas cruel avec M. Macron.
Je ne l'étais pas, en tout cas.
Non.
J'ai compris votre ironie, mais je ne l'étais pas. À l'occasion de la sortie de votre livre, Le temps des tempêtes, Nicolas Sarkozy, vous avez exprimé des regrets sur le thème de la sécurité. Est-ce que vous estimez que le gouvernement en fait assez sur ce thème ?
Non, mais vous voulez me ramener à la vie politique, je n'y suis plus. En tout cas, de la vie politique...
Je vous pose une question sur un sujet qui vous est cher, en tout cas.
Peut-être que la période de ma vie politique qui m'a le plus passionné, je ne parle pas de l'Élysée, c'est les 4 ans à l'intérieur. Si vous saviez comme j'ai aimé être là-bas. Parce que pour la première fois, j'ai eu le sentiment qu'on pouvait agir sur la réalité. J'aime emmener des femmes et des hommes. J'ai aimé le dévouement de ces gens. On était en permanence confrontés à l'actualité et on a eu les 3 semaines d'émeute, qui n'étaient pas faciles. Bon, je ne dis pas qu'on a bien fait. En tout cas, aujourd'hui, on ne peut pas mettre sur le dos une bavure. C'était vraiment pas si simple. Les 3 semaines avaient été horribles. Donc sur la sécurité, on n'en fait jamais assez. Pour les citoyens, pour l'univers médiatique, on en fait toujours trop. Et il y a un décalage, mais vous imaginez pas le décalage qu'il y a entre les gens qui osent parler des violences policières, qui peuvent arriver mais ils sont sanctionnés, mais la République a le droit, le devoir d'utiliser une force légitime. C'est pas sur un pied d'égalité. Bon. C'est même la caractéristique de l'État de droit qui doit se défendre. Donc on n'en fait jamais assez pour nos concitoyens, y compris moi, ils pensent que je... certains disaient à l'époque que j'en faisais trop.
Les violences policières, c'est quand elles ne sont pas légitimes.
Ça peut arriver, bien sûr. Enfin, c'est quand même le seul corps de fonctionnaires où chaque année, il y a entre 5 et 10% des gens qui se trouvent blessés. Bon, vous savez, si les policiers ne peuvent pas utiliser la force, il faut envoyer les travailleurs sociaux, alors. Parce qu'il y a des gradations, hein. Quand on envoie l'armée, c'est pour ça que j'ai toujours été opposé à ce qu'on envoie l'armée dans les banlieues. Parce qu'un soldat, c'est fait pour tirer, hein. Sinon, vous ne voulez pas quitter, il ne faut pas l'envoyer. Et un policier, c'est fait pour utiliser la force si en face, on résiste. C'est ça, la gradation. Bon, c'est un métier très difficile. Moi, j'ai beaucoup aimé faire ça. Et je pense que nos concitoyens des quartiers qu'on dit difficiles sont les premières victimes. Parce que la vérité, c'est que chaque fois qu'un ministre de l'Intérieur, et c'est ce que fait Darmanin, touche au trafic de drogue, les trafiquants de drogue mettent le bazar dans le quartier. C'est ça, la vérité. Parce que si vous voulez la paix dans un certain nombre de quartiers, vous les laissez faire leur petit trafic et vous avez la paix. Mais la paix des dealers, c'est une paix qui vaut rien.
Nicolas Sarkozy, vous restez avec nous. Moi, Mathieu Belliard pour le 5 sur 5.
Merci. Bonsoir Babette, bonsoir à toutes et à tous.
Bonsoir Mathieu.
Le rapport de la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église catholique remis aujourd'hui.
Remis par Jean-Marc Sauvé, son président à la Conférence des évêques de France et à la Conférence des religieux et religieuses. D'abord, des chiffres, ils étaient attendus, ils sont accablants. 216 000 victimes agressées par des membres du clergé depuis 1950, 330 000 victimes si l'on compte les non-prêtres liés à l'Église. Le ton grave, Jean-Marc Sauvé insiste sur le rôle de l'Église dans un état des lieux, je cite, particulièrement sombre.
Il faut se départir de l'idée que les violences sexuelles dans l'Église catholique ont été complètement éradiquées, que le problème est derrière nous. Non, le problème subsiste.
Ce rapport, ces chiffres impressionnants, les centaines de milliers de victimes, il faut le souligner aussi, autour de 3000 prêtres auteurs de ces violences sexuelles. 2 ans et demi de travail qu'attendaient les victimes.
Choc, on est en état de choc. Moi, je m'attendais peut-être à 40 000, une évaluation de 40 000 victimes, mais 216 000, voire 330 si on comprend les laïcs, c'est énorme. Donc tout ça s'explique aussi dans le temps, hein, parce qu'avant, les institutions scolaires religieuses dominaient sur même les institutions publiques. Et là, avec une propension plus forte de garçons, potentiellement agressés par des hommes, puisque c'était pas mixte. Mais oui, on est sous le choc.
Je voulais que vous entendiez une voix parmi ces victimes, parce que pour Jean-Marc Sauvé, il faut le souligner, ces témoignages sont au cœur du rapport.
Il y a des victimes qui ont pu nous parler, il y en a d'autres qui ont tourné la page, tant mieux pour elles, et nous savons que beaucoup de victimes ont été incitées à nous parler et qu'elles n'ont pas pu nous parler, que des rendez-vous ont été pris, qu'ils ont été annulés. C'est parce que c'était tellement douloureux de reprendre ce récit qui avait été tellement difficile devant nous, que ça prenait du temps.
Le pape a commenté la publication de ce rapport.
Oui, bien sûr, réaction du Vatican à la mi-journée. Le pape François fait savoir son immense chagrin. Il appelle l'Église de France à entreprendre la voie de la rédemption. Jean-Marc Sauvé, toujours président de la commission, dont tout le monde a salué le travail aujourd'hui. Pour Jean-Marc Sauvé, avec ce travail, on ne peut plus nier le caractère systémique de la pédophilie au sein de l'Église. Après la remise du rapport, Camille Schmitt lui a demandé ce qu'il fallait en faire aujourd'hui, après le constat. Quelle solution ?
Si l'Église ne se saisit pas des propositions que nous faisons, qui le fera ? On préconise, pour que les agressions s'arrêtent, de revoir de manière substantielle le mode de fonctionnement de l'Église catholique, sa gouvernance. On propose de développer les mesures de prévention, les mesures d'évaluation et de contrôle interne.
La balle est donc dans le camp de l'Église quand on l'écoute. Et le clergé français s'attendait-il à de tels résultats ? Écoutez l'évêque d'Arras, il était présent ce matin.
Je ne peux que me taire devant cette souffrance, cette violence. Nous voulons prendre notre responsabilité, nous les évêques. L'Église a gravement fauté, c'est clair. Et donc nous voulons travailler pour que ces souffrances ne se reproduisent pas. Je voudrais leur demander pardon, mais cette demande ne sera crédible que si nous nous mettons au travail.
Pardon, il demande pardon, c'est une expression qu'on a beaucoup entendue aujourd'hui, expression que Camille Schmitt, justement, est allée soumettre à François Deveau de l'association La Parole Libérée, une victime du père Prénat. On l'avait particulièrement entendu au moment de l'affaire et du procès du cardinal Barbarin. François Deveau reste en colère aujourd'hui.
La question du pardon, c'est remettre le trauma des victimes et la destruction de leur vie sur le registre sacrificiel catholique. Et de cette façon-là, en fait, on clive la victime. Et on lui dit, mais si toi, tu es un bon catholique, en fait, ce que tu as vécu, tu dois l'éteindre. Tu dois te taire parce que Jésus est mort sur la croix.
Et vous faites confiance à l'Église catholique pour s'emparer des recommandations faites dans le rapport ?
Non, absolument pas. À chaque fois qu'ils ont fait un truc et qu'on a voulu le rapport les éclairer, à commencer par leur cellule d'écoute, ils n'ont fait qu'essayer de discréditer, en fait, sans jamais s'intéresser au contenu et à la qualité scientifique de ce qui était dit.
Monsieur Sarkozy, le rapport de la Commission met en cause le droit canon, le droit interne à l'Église, largement inadapté. Il y a une question de justice qui se pose. Il va falloir que les catholiques, que l'Église catholique accepte de se soumettre à la justice des hommes et non plus à la justice divine.
C'est un sujet extrêmement fort et complexe. D'abord, la gravité du problème, elle est là devant nous, béante. Et reconnaissons que l'Église de France n'est pas cachée, là. Tous leurs projets, enfin quand
c'est
même.
C'est elle qui a commandé, c'est la conférence des évêques de France qui a commandé.
Oui, M. Chauvet a été choisi, nommé. Il y a un moment donné, quand même, six thèses. On leur reproche à juste titre. Là, c'est eux qui font le travail. C'est pas un rapport qui a été demandé par d'autres. C'est eux qui font le travail. Bon, ça, comme l'a dit le monsieur, ça enlève rien à la souffrance. Quand même. Deuxièmement, je crois que le plus grand nombre de faits, c'est autour des années 70-80, hein, comme vous le savez.
Dans les principaux faits, c'était dans les années 50 et 60.
Oh, un peu plus, un peu plus. Voilà, je voudrais pas mettre sur le même plan, mais enfin, 68, le journal Libération qui fait sa une pour la dépénalisation.
Vous pensez que les curés lisaient Libération ?
Non, mais pas du tout. Je dis que c'est tellement horrible qu'on va pas dire c'est horrible parce que c'est des prêtres. C'est un facteur aggravant. Mais il y avait quand même cette une de Libération signée par les grands intellectuels de la gauche de l'époque pour dire que c'était pas grave, que c'était un scandale de mettre en prison un pédophile. J'ai moi-même réécouté ce que disait M. Cohn-Bendit. M. Cohn-Bendit, sur la sexualité des enfants, c'est disponible pour tous ceux qui veulent l'écouter, ça soulève le cœur.
La société a fermé les yeux ?
Donc, il y a un problème d'Église catholique. Il est béant devant nous, mais il y avait un problème, oui, de société. Parce que, permettez-moi de vous dire, quand on emmenait des gosses fragiles ou délinquants sur des bateaux, vous savez, pour les redresser, et où le dingue qui s'occupait de cette association pensait que c'était mieux de les mettre tout nus, hein ? Ça existait aussi, c'était pas l'Église catholique. Donc, il y avait un problème majeur sur cette question de sexe, d'enfants, d'abus. Et c'est une bonne chose qu'aujourd'hui, une ligne rouge infranchissable soit posée. Voilà. Et donc, de ce point de vue-là, c'est positif.
Nicolas Sarkozy, on va continuer de la conversation avec vous autour de Promenade, ce livre qui parle de votre passion pour les artistes. On va d'ailleurs poursuivre cette conversation aux côtés d'un artiste que vous avez décoré à l'Élysée, parmi les nombreuses personnalités et artistes que vous avez décorés lorsque vous avez passé 5 ans à l'Élysée. Il s'appelle Dominique Farrugia et il sort un magnifique livre, Elle ne m'a jamais quitté, dans lequel il parle de la sclérose en plaques, cette maladie avec laquelle il vit depuis plus de 30 ans. Et c'est un coup de gueule qu'il veut pousser sur le fait que cette question du handicap a trop longtemps été sous-traitée par les responsables politiques. On ouvre le dialogue avec vous, Dominique Farrugia, Nicolas Sarkozy, mais également Mohamed Bouabsi et toute l'équipe. Il y aura le Vu et les actualités de Bertrand. Zabou Bratman est également notre invité du dîner. À tout de suite.